m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Mickaël Goncalves,
Baptiste Antoine.
Bonjour, bonsoir. Il y a sa grande silhouette et son crâne lisse, son sourire franc et son rire communicatif si caractéristique. Il y a sa voix et son saxophone qui nous ont accompagnés depuis 60 ans, 60 ans pendant lesquels il n'aura eu de cesse de rencontrer, de marier et de faire partager les notes et les rythmes d'Afrique et d'ailleurs. On dit même de lui qu'il est l'inventeur ou le précurseur de ce que certains ont appelé la world music. Bref, c'est une légende de la musique que nous recevons aujourd'hui à l'occasion de ses 60 ans de carrière, Manu Dibango. Pour fêter cet anniversaire, il sera au Grand Rex à Paris le 17 octobre. Il est donc aujourd'hui sur RFI et dans VMDN et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Manu Dibango.
Bonjour cher ami.
Merci infiniment d'être avec nous aujourd'hui pour fêter ces 60 ans de carrière. Qu'est-ce que vous ressentez aujourd'hui quand vous entendez un tube comme Soul Makossa? Qu'est-ce que vous ressentez?
C'est une question un peu difficile parce que je l'ai tellement entendu, finalement j'ai fini par la connaître. Je me demandais d'ailleurs pourquoi ce morceau avait du succès. Quand on a commencé à me poser des questions, je me posais moi-même la question parce qu'en fait, ça faisait un bout de temps que je ne jouais pas ce morceau. Donc, je suis parti dans ma discothèque chercher pour savoir quelle est la substantifique morale qu'il y avait dans le... Et avec le temps, on apprend à certaines choses sur une chanson. On ne sait pas tout au même moment d'ailleurs. Hein.
Mais c'est vrai que ce succès, il n'était pas forcément programmé parce que c'est une face B. Alors vous n'êtes pas le seul à avoir sorti un disque sur lequel la face B a eu autant, voire plus de succès que la face A. La face A, c'était l'hymne de la CAN,
c'est ça,
la Coupe d'Afrique des Nations, la 8e au Cameroun.
C'est ça, oui.
Et la face B, alors comment est-ce qu'elle vous est venue, cette face B? C'était parce qu'il fallait trouver un morceau pour la deuxième face ou il y avait réellement un vrai projet artistique à la base derrière cette
face
B?
Non, il n'y avait pas de projet artistique, heureusement d'ailleurs.
Il faut se méfier des projets artistiques.
Il faut se méfier des projets en général. Quand on fait la musique, le morceau sur lequel en général on compte, c'est pas forcément celui-là qui gagne l'esprit du public, hein, parce que en fait un tube, c'est ce que vous voulez dire, un tube, c'est pas vous qui faites le tube, c'est le public. Sinon vous allez au studio tous les jours, hein, je veux dire, y a plein de morceaux que vous faites, mais le public à un moment donné, si ça doit arriver, et là c'est un conte de fées, si ça doit arriver, eh ben c'est le public qui décide que c'est celui-là. Voilà. Donc après vous commencez à analyser pourquoi pas les autres.
Alors vous avez eu la réponse maintenant avec le temps qui passe?
Oh, il y a plusieurs réponses. C'est un puzzle, hein. C'est un puzzle. Il y a quand même beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il y a le moment où ça a été fait. Il y avait un besoin de ça à ce moment-là en même temps. Et tout ça, ça doit arriver au même moment, au bon moment.
C'est une question d'opportunité.
C'est ça, donc.
De hasard, presque.
Moi, je dirais un conte de fées parce que le hasard, je ne sais pas. Je pense que c'est, je pencherai sur l'opportunité, moi.
Alors, on va juste réécouter quelques notes, cette phrase musicale-là. Alors, je ne sais pas quels sont les faits qui se sont penchés sur votre berceau et sur votre disque à ce moment-là, Manu Dibango. Comment est-ce que vous êtes arrivé à ces notes-là, à cette mélodie-là, à ce thème-là?
Ben, on ne sait pas. Voilà, ça c'est une question très intéressante. Est-ce que vous êtes propriétaire de vos idées?
Oh là là, je vois à quoi vous faites référence. Vous faites référence
vous
à Michael Jackson.
Non, c'est
à
pas
Rihanna,
ça.
Parce qu'il y a eu beaucoup de d'imbroglio autour de cette musique.
Ce que je veux dire, que quand une idée vous arrive, est-ce que vous êtes propriétaire ou bien elles arrivent sur vous et pas sur quelqu'un d'autre?
Oui.
À ce moment-là, vous êtes capteur de quelque chose. Mais est-ce que vous êtes propriétaire de ce que vous avez capté? Ouais, c'est beaucoup plus compliqué qu'on ne pense, hein. Mais le fait est que elle vous arrive à ce moment-là parce qu'il y a un concours de circonstances. La batterie, par exemple. Il y a deux batteries, là. Pourquoi? Parce que l'afterbeat, on n'arrivait pas au studio à avoir l'afterbeat qu'on voulait. Donc, il fallait doubler l'afterbeat. Ça, c'est une chose. La deuxième chose, c'est que le batteur, il est gaucher. Donc, il n'a pas la même attaque que quelqu'un qui est droitier. C'est ça. Deuxième chose. La troisième chose, c'est que la basse, il fallait, je me satisfaisais pas, moi, d'une ligne de basse qui n'était pas doublée en tierce. Ça donnait une épaisseur à ma rythmique. La quatrième chose, c'est qu'il y avait l'arrivée de la wawa à cette époque-là. Il y a eu Shaft avant, et la wawa amenait un son qui n'existait pas avant. Il n'y a pas de clavier là-dedans, il y a juste la wawa qui est rythmique et mélodique. Alors ensuite, il y a donc un arrangement sur les cuivres, et puis il y a le thème qui arrive naturellement.
Est-ce que vous êtes un mélangeur, Manu Dibango?
Que marieur.
Un marieur, voilà. Parce que là, on a à la fois de la musique traditionnelle, voilà, et puis on a la soul music américaine.
Ouais, disons que je suis simplement musicien et que je fais de la musique sur l'environnement dans lequel je me meus. Je n'entre pas en studio en disant « Ah, je suis musicien camerounais, machin ». J'ai pas cette prétention. La prétention que j'ai, moi, c'est d'être musicien d'origine camerounaise.
Alors, quand on entend le nom de Manu Dibango, on pense à Makossa, évidemment. Il y a eu un avant et un après?
Forcément. Parce que, avant, vous êtes simplement, quand même, vous êtes musicien, puis chef d'orchestre. Et puis après, vous devenez bankable. Donc,
voilà.
Vous entrez dans une autre catégorie.
Ouais, et puis, donc, il y a eu, comme je le disais tout à l'heure, ces accusations de votre part de reprise, de plagiat, Michael Jackson, Rihanna, il y a eu des mots, il y a eu un appel à la justice, vous avez trouvé...
C'est pas une accusation, c'est un fait.
Voilà,
il y a qu'à écouter,
voilà.
Quoi.
Enfin bon, vous n'êtes pas allé au bout du procès, il y a eu un arrangement financier. Hein?
Si c'est un arrangeur, moi j'ai fait arrangeur aussi.
Voilà. Est-ce qu'on vous a volé? Est-ce que vous avez eu le sentiment d'avoir été volé, Manu Dibango?
Très bonne question. Il y a deux choses là-dedans. Il y a deux choses. J'ai été reconnu. J'étais connu avec ce morceau, j'ai eu du succès, moi, dans les années 70, et puis Michael Jackson est venu, il a fait renaître le morceau différemment, et ça a été le morceau qui a été le plus vendu au monde avec les 35 millions de disques. Donc forcément, il a amené ce morceau ailleurs. Alors plus ou moins, légalement, ça c'est un autre problème, mais bon, on ne plagie de toute façon que ce qu'on aime, et ce qu'on a écouté. Et pendant très longtemps, nous, on pensait qu'ils ne nous écoutaient pas. Jusqu'au moment où ce truc est arrivé, on s'est rendu compte que eux aussi, ils écoutent ce que nous faisons. Donc il y a une reconnaissance qui ne passe pas toujours par les canaux normaux, mais il y a reconnaissance.
Alors on pense à Makossa, quand on entend le nom de Manu Dibango, je le disais, on pense aussi à votre compagnon de scène le plus fidèle, on pense à votre saxophone. On se dit que vous êtes né avec lui, et en fait, pas du tout. Avant le saxo, il y a eu d'autres instruments de musique, Manu Dibango.
Il y a eu la flûte en bambou d'abord à la maison.
Oui.
Il y a eu l'harmonica, que mon père m'avait acheté, mais voilà. Et puis ensuite, il y a eu la mandoline, parce que c'était l'instrument le moins cher, que je pouvais trimballer partout. Et puis ensuite, il y a eu le piano. Il y a beaucoup d'instruments qui passent. En fait, un musicien, il essaye beaucoup de choses peut-être, parce que les instruments sont des véhicules nobles, évidemment, de la pensée. Mais vous cherchez votre voix, et apparemment, la voix qui émerge le plus, avec moi, c'est le saxo. Mais j'aime aussi le vibraphone, j'aime l'orgue. J'ai été longtemps organiste de Nino Ferrer, d'ailleurs.
Vous êtes Comment est-ce que le saxo s'est-il imposé? C'est lui qui vous a choisi ou c'est vous qui l'avez choisi, Manu Dibango?
Vous me posez des drôles de questions quand même ce matin. Parce que ce sont des questions que je me pose. D'abord, c'est un instrument que j'aime physiquement. Je trouve que cet instrument est sexy.
Ah, oula, les courbes sexy du saxo,
voilà,
de Manu
Dibango. Voilà, donc je regarde les vitrines et l'instrument qui me meut le plus, quand je regarde les instruments, la trompette et le trombone et tout ça, c'est l'instrument qui, les boutons, les nacres et tout ça, je trouve ça joli. Deuxième truc, élément, j'ai pas d'argent pour l'acheter, mais j'aime l'instrument, j'aime le son. Troisième élément, je reçois un saxo comme prêtre. Quatrième élément, je le rends jamais. Et puis cinquièmement, donc je le coltine, le temps de faire connaissance. Ça n'a pas été une affaire foudroyante au départ, hein. Ça me chatouillait tout ça, mais comme je suis un peu têtu, j'ai un peu forcé le truc. Finalement, on s'est trouvé bien ensemble. Et effectivement, est-ce que c'est lui qui est venu? Est-ce que moi, je crois que chacun a fait un pas vers l'autre.
Alors, il y a aussi un autre instrument, hein, dont vous continuez à jouer, c'est évidemment votre voix.
Oui.
Vous avez commencé à chanter dans la chorale de votre maman, à Douala.
C'est ça, à Douala.
Au temple.
Au temple, ma famille est maternelle et paternelle, étaient protestants, ils aimaient la chorale. Ma mère, qui était couturière d'abord, elle, à ce moment perdu, si je peux dire, elle dirigeait la chorale chez nous. Et puis, il se trouve que mon oncle paternel, le grand frère de mon père, il jouait de l'harmonium du temps des Allemands. Hein, parce qu'on était, à un moment donné, on était Allemands quand même. Et donc, il jouait l'harmonium. Alors, vous voyez, des deux côtés de la famille, il y avait quand même de Rémy. Hein.
Et à l'école, vous chantiez aussi?
Ah voilà, à l'école.
L'école française, donc vous chantiez la variété française?
Je chantais ce qu'il y avait, et ce qu'il y avait, c'était la variété, forcément. Hein. On n'écoutait pas la musique anglaise dans un pays francophone. À l'époque, on était colonisé d'abord. Pendant longtemps, moi, je suis parti de la maison sous la colonisation. Les indépendances sont arrivées en 60. Moi, je suis arrivé en 49 ici. Donc, on était encore, la mère patrie, tout ça.
Ouais. Et donc, vous montez sur un bateau, le Hogar, direction la France.
C'est ça.
Pour continuer vos études. Vous passez donc de Douala à Saint-Calais. Alors, Saint-Calais, je sais pas si tout le monde sait précisément où c'est. Même en France, c'est dans le département français de la Sarthe.
C'est à 20 kilomètres du Mans.
Voilà. Et votre instituteur s'appelle Monsieur Chevalier.
Mon correspondant. Parce que pour venir en France à cette époque-là, il fallait avoir une famille qui acceptait non pas de vous adopter, mais de vous recevoir dans la famille.
De vous héberger.
De m'héberger et tout ça. Et donc la famille qui a accepté, ça a été la famille Chevalier, dont le fils était instituteur.
Et vous offrez au Chevalier 3 kilos de café?
Oui, parce qu'à l'époque, le café, on en avait en abondance, la France zéro, hein, c'était Topinambour et Co ici. Et donc, amener le café à une famille française, c'était un cadeau, et c'est les parents qui envoyaient. Il se trouve que, par contre, le café qui se vendait en commerce se vendait par 3 kilos.
Ouais, et 3 kilos, c'est le titre que vous avez choisi de donner à votre autobiographie, hein, que vous avez publiée à la fin des années 80, c'est-à-dire que cette arrivée en France, c'est un moment fondateur, un moment décisif dans votre vie artistique et dans votre vie tout court.
Mais on change de monde. On sort d'un pays colonisé, on arrive dans le pays qui vous a colonisé, et vous n'avez pas affaire à des colons. Vous avez affaire à des individus normaux qui vivent dans leur pays, le français lambda qui n'a rien à voir avec un colon. Donc c'est un changement de monde, c'est un changement de vision, et puis vous avez 15 ans, vous commencez les pas dans la vie. Donc c'est beaucoup de choses à la fois, et c'est les moments de solitude, parce que vous êtes dans un coin, Saint-Calais, c'était un village pour... Ils avaient vu que peut-être les tirailleurs sénégalais, ou plutôt les MP américains qui passaient, qui étaient noirs, mais il n'y avait pas de noirs dans le coin. Et je vous garantis que essayez d'aller en Afrique quand vous avez 15 ans, un blanc au milieu des noirs, qu'est-ce que ça doit donner? Eh ben, mettez ça de l'autre côté, un noir parmi les blancs, qu'est-ce que ça donne?
J'ai caché mieux que partout ailleurs au jardin de mon cœur une petite fleur.
Quelques-uns des plus grands succès de Sidney Béchette revisité par notre invité d'honneur d'aujourd'hui sur RFI, Manu Dibango, à l'occasion de ses 60 ans de carrière. Vous lui avez consacré un album en 2007 à Sidney Béchette, clarinettiste mais aussi saxophoniste, Manu Dibango. Béchette, c'est un musicien qui vous a accompagné au fond toute votre vie.
Eh bien, figurez-vous que dans les années 50, au Vieux Colombier, nous on l'a connu en chair et en os, on allait danser au Vieux Co, comme on disait.
Oui, donc à Paris, ça se trouve avec à côté de l'église Saint-Sulpice.
Voilà, avec Claude Luther, dans un premier temps, et puis avec Réveillotti dans un deuxième temps, et puis avec les Maxime Souris et tout ça, l'époque de Saint-Germain, et donc j'ai connu plein de Noirs américains, mais lui, il vivait en France.
Vous lui avez parlé à Sidney Béchette?
Ben oui, comme tout un élève, on n'était même pas étudiant, on était des élèves. Hein. Je veux dire, aller voir un monument comme lui, c'était assez impressionnant quand même.
Comment est-ce que vous avez découvert le jazz? Avec Béchette?
Naturellement, c'est venu naturellement d'ailleurs, parce que dans les églises protestantes, en fait, beaucoup de musiciens américains commencent par là aussi. Hein. Et alors, on a le même répertoire. Seulement chez nous, on le chantait en Douala, le répertoire, mais c'est du Bach, du Handel, du Beethoven qu'on chante dans les églises. Nous, on pensait que c'est notre musique, puisque c'est là qu'on chantait.
Mais la musique, elle appartient à tout le monde, on est d'accord.
Oui, mais à cette époque-là, le jazz vient naturellement après, parce que vous entendez ça, et puis y a des trucs que vous avez déjà entendus, Armstrong et tout ça, ça vous attire. Bon, j'étais beaucoup plus attiré par cette musique à cette époque-là que par rapport à la musique latino, que par ailleurs j'aimais et que j'aime toujours. Mais j'étais plus attiré par cette musique-là.
Premier disque de jazz que vous avez acheté?
Alors, voilà, c'était à Château-Thierry. Hein, ça, c'est dans l'Aisne, non? Tous les copains avaient un Tepaz. Moi, j'en avais un aussi. Donc, on était une bande de gens qui aimaient le jazz. Et puis, il y avait un magasin de disques. Et comme tout le monde avait acheté des disques, moi je voulais un disque aussi, je suis allé au magasin. Et le dernier disque qui restait de jazz, c'était Duke Ellington.
Morning Glory.
C'est ça.
Alors vous allez écouter évidemment le jazz, vous allez aussi en jouer, hein, piano, saxophone notamment dans les bars, les cabarets de Bruxelles, notamment dans le cabaret des Anges Noirs.
Ouais.
C'est là que vous rencontrez Coco qui va devenir votre épouse. C'est là que vous avez aussi croisé Lumumba, Kalongi, Mobutu, les dirigeants du futur Zaïre, hein, qui étaient
table ronde
à Bruxelles pour négocier l'indépendance de ce qui était alors le Congo belge. Mm-hmm. Vous étiez vous aussi transporté par l'aspiration à l'indépendance des peuples africains à cette époque-là? Est-ce que vous étiez engagé?
Pas du tout. Alors, j'étais engagé dans la musique. ça m'est arrivé vraiment, comme ça arrive, j'étais pas du tout dans... J'avais des copains qui étaient militants dans des choses politiques et tout ça. Ça ne m'a jamais attiré. Et alors, figurez-vous que à Bruxelles, il y avait un monsieur qui s'appelait Bomboko, hein, un étudiant, un des rares étudiants, parce que les Belges ne voulaient pas de Congolais en Belgique. Mais il y a des curés qui ont fait venir deux ou trois étudiants congolais à Louvain, hein, à l'université et tout. Et ces étudiants, le samedi, ils venaient à Bruxelles dans les boîtes. Bien, et nous, on travaillait là, donc on payait le Coca-Cola à ces étudiants. Et puis un jour, je vois un des étudiants qui est devenu ministre des Affaires étrangères à côté du roi Baudouin. C'est là où je me suis réveillé. J'ai dit, tiens, c'est pas possible. C'est ce gars-là à qui je payais le Coca-Cola. Il est devenu ministre. Et la politique a commencé à m'intéresser à cette époque-là, quoi.
Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde, hein, aux anges noirs, hein. Donc, il y a les politiques, notamment congolais. Il y a aussi un musicien, un très grand musicien congolais, Kabasele. Le Grand Calais. Hein, ouais. Le père de la musique congolaise moderne, hein, qui venait d'ailleurs enregistrer à Bruxelles, ouais. Indépendance Tcha-Tcha.
Exact.
Qui va devenir un peu l'hymne de l'Afrique
indépendante
des années 60. On vous entend pas sur ce titre.
Non, parce qu'il y avait pas d'instrument avant. Mais j'étais au studio et tout ça. Et puis un concours encore de circonstances. On parlait de ça tout à l'heure. Ben écoutez, il est venu. Son saxophoniste qui devait venir enregistrer était malade. Bon, ben voilà, donc...
Il faut le remplacer. Il y a quelqu'un qui sait jouer du saxo dans le coin.
Qui convenait, en tout cas. Ouais, c'est tombé sur moi, et puis voilà, il y a beaucoup de succès avec ces disques-là.
Énorme, une quarantaine de titres enregistrés, ouais. Énorme tournée en Afrique. Et dans cet ensemble musical, donc il y a évidemment énormément de musiciens et de grands musiciens. Il y a aussi, par exemple, Taboulé Rochereau.
C'est ça, il y a le docteur Nico, okay. Oui, Rochereau, Deschaux, le frère de Nico, il y avait du monde quand même.
Qu'est-ce que vous gardez justement de ce succès énorme de cette tournée à travers l'Afrique, l'ambiance qui régnait à cette époque?
Ben, je garde le fait que j'ai eu la chance, parce que finalement, le destin, il arrive, c'est lui qui décide pour vous, hein, parce que j'ai fait un remplacement comme... Je faisais des remplacements. Écoutez, à cette époque-là, je jouais donc aux Anges Noirs, mais il m'arrivait de jouer avec Beko, parce que Beko était en tournée dans les grandes, on appelle ça les grandes Belgiques, les boîtes, les grands théâtres à Bruxelles. Il avait besoin d'un saxophoniste. Je me faisais remplacer 2 heures, comme la Belgique n'est pas grande.
Non.
J'allais faire le truc avec lui, je revenais. Donc j'étais un peu le musicien, un peu amovible dans l'affaire. Donc le saxo, et puis j'ai amené le piano, par contre, dans la musique africaine à cette époque-là. Donc avec Kabasele, beaucoup de morceaux qui ont eu du succès, c'était avec le piano, au moment du cha-cha-cha d'ailleurs. Hein. Et voilà, donc il suffisait d'être musicien et d'être là au bon moment.
Ouais, ça a l'air extrêmement facile avec vous, mais on a un petit doute quand même, Manu Dibango. Alors vous vous installez en tout cas à Kinshasa, enfin à l'époque on disait Léopoldville, hein,
oui.
C'est bien
nous
ça.
Twist, j'ai fait le twist à Léopoldville.
Ah bah voilà, ça tombe bien, ben on écoute tout de suite.
Oui, mon corps balance, ah, quand j'entends le twist. Aïe, aïe, aïe. Mettez à Kalina, de la cité à Parc en ville, vous osez, on danse le twist, ah, à Léopoldville. De l'Hippopo à Kalina, de la cité à la Pergola, vous osez, on danse le twist, ah, à Léopoldville. Aïe, 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 j'ai perdu la tête.
bien.
Eh oui.
Pap di bap, li do ni bu bap. Pa de ti bene, ti bene, ti bene, ti bene, ti bene, ti bene. Chigli a bop, chigli a bop, badu du de we we we, yeah. Badu di da.
Alors, racontez-nous, Manu Dibango, parce que ça, c'est quand même pas banal. Comment est-ce que vous avez pu avoir l'idée de faire danser le twist à Léo, de faire danser le twist à Léopoldville? Vous aviez un peu perdu la tête?
Pas tout à fait, la preuve. Non, mais parce que le twist, pour les jeunes, était partout. Hein, que les disques de Bob à Azam, à l'époque, qui avait fait le premier twist, d'ailleurs, hein. Et, amen, amen, voilà, c'est arrivé jusque, là, donc, il n'y avait pas de twist africain. J'ai dit, ben, pourquoi je faisais pas un jeu, hein, je veux faire un truc, là-dedans. Et puis, j'ai fait un twist, naturellement, parce qu'il n'y en avait pas.
Voilà, et ça a marché.
Et ça a marché, parce que tout autour de moi, il y avait la rumba. Hein, c'était la rumba qui était reine. Donc, ce genre de musique, par contre, les jeunes les dansaient, mais ils n'avaient pas ça en disque.
Énorme succès, hein, donc dans le futur Kinshasa à Léopoldville, à ce moment-là, Manu Dibango. Donc, ça a marché, hein, on vient de le
ouais,
dire. Vous êtes le plus congolais des musiciens camerounais ou le plus camerounais des musiciens congolais?
Ça dépend comment on le prend, de quel côté. J'étais les deux.
Parce que à ce moment-là, au Cameroun, ça se passe quand même moyennement pour vous.
Ben, ça
vous
se passe
beaucoup
pas
plus
du
à l'aise au Congo. Hein.
Non, mais ça se passe pas du tout, tout simplement parce qu'il y avait la guerre civile, tout simplement, et que c'était pas le bon moment d'aller s'installer. Et tout le monde rentrait, en fait. C'était le moment des indépendants. Chacun rentrait au prorata de ce qu'il avait fait comme études et tout ça. Et bon, il y a des ingénieurs, il y a des toubibs, il y a des pharmaciens, il y a des avocats, il y a tout ce monde-là. Et puis moi, je rentrais comme musicien pour faire mon boulot de musicien. Et puis il se trouve que c'était pas une priorité à ce moment-là. La guerre civile, il fallait faire la paix, il fallait créer le Cameroun fédéral et ensuite le Cameroun uni et tout ça. Donc c'était pas le bon moment. Tandis que musicalement, c'était le bon moment d'être à Léopoldville.
Alors, ouais. Vous créez votre premier big band en 1967, Manu Dibango, et un jour, à la télévision française, on entend ça. Vous avez reconnu, Manu Dibango.
Oui, Pulsation,
voilà, générique de l'émission de G-Zip Legitimus, une émission consacrée au jazz, au funk, à la musique
sans présentateur, d'ailleurs.
Sans présentateur, d'ailleurs,
ouais,
c'est extraordinaire.
Ouais. Il avait réussi en 67, tout de même, à avoir une émission de variété où on faisait réellement ce qu'on appelle la variété, hein, parce que ça allait de... tout le monde chantait là-dedans, de Mike Brand jusqu'à la musique classique. Et il se trouve que, la petite histoire, moi je jouais à la Bohème à Montparnasse. Hein. Et quand il a eu cette émission, il a cherché, parmi les Antillais, qui voulait diriger, qui voulait être chef d'orchestre là-dedans. Et pour des raisons, peut-être matérielles, il n'a pas trouvé, donc il est venu vers moi. Pourquoi il n'a pas trouvé? Parce que le chef d'orchestre ne gagnait pas plus que le musicien.
Ah.
Et moi, j'ai accepté de le faire au même tarif que tous les musiciens.
Et donc à chaque fois, le générique, c'était vous et votre orchestre.
Et voilà, et puis même il arrivait que je composais des morceaux, ça me donnait l'occasion du reste de composer des morceaux au fur et à mesure, si bien que j'ai pu faire un 30 cm par la suite. Moi je voyais qu'une présence à la télévision, à cette époque-là, c'était encore du noir et blanc et tout ça, comment il a pu avoir cette émission, il n'a pas vécu assez longtemps pour que je lui pose la question, mais ça a été la première vraiment émission de diversité.
Hein. Voilà, et il y a eu pas mal de monde, hein, évidemment, qui s'est succédé sur ce plateau à la télévision, notamment Dick Rivers, avec lequel vous allez travailler. Et puis, Nino Ferrer, qui a, entre autres, chanté ceci.
S'il vous plaît, dites-moi comment vous faites, Monsieur Charles, Monsieur King, Monsieur Brown. Moi, je fais de mon mieux pour chanter comme vous, mais je ne peux pas grand-chose, je ne peux rien du tout. Je crois que c'est la couleur de ma peau qui ne va pas.
Alors il y a deux versions là qu'on a entendues successivement. Il y a celle de Nino Ferrer en 66 et puis il y a la vôtre, Manu Dibango, la version 69 sur l'album Sexy Party. Clin d'œil sympathique un homme un peu ironique quand même.
Bah, c'est une lettre que je réponds à une lettre.
Voilà. En fait.
Lui voulait être noir, moi je le suis, mais son noir à lui c'était Mississippi et moi c'est plutôt cocotier.
Voilà. Quel est le souvenir que vous gardez de Nino Ferrer? Parce que c'est un très grand monsieur de la chanson française, c'est un très grand musicien. Est-ce que vous pensez pas quand même que on n'a pas reconnu Nino Ferrer à sa juste valeur?
Ben Nino, il voulait être reconnu, mais pas dans ce milieu-là, parce que c'est quand même un fils de famille. C'est pas un bonhomme de la rue. Hein. Son père était un très grand architecte. Il est né d'une famille, bon, voilà, et il a fait des études. Alors, il a fait de la musique, les cornichons, tout ça,
le téléphone.
Le Mirza, c'était pour s'amuser. Mais il y a des belles chansons, La Maison près de la Fontaine,
le Sud,
qu'il avait fait pour quelqu'un et qu'il a été obligé, lui, de chanter. Il n'aimait pas du tout chanter cette chanson.
Incroyable.
Voilà. Et ça l'énervait de la chanter, en même temps, un succès colossal. Ça, c'était Nino, ça. Il était multiple, Nino, mais c'était un grand bonhomme et surtout un très bon musicien.
Pas toujours facile à vivre, paraît-il.
Non, il avait du caractère avec un grand C. Hein.
Voilà. Donc vous l'avez accompagné à l'orgue, au saxo, vous avez été son chef d'orchestre. Vous avez dirigé quand même beaucoup d'orchestres dans votre carrière, Manu Dibango, en particulier l'orchestre de la RTI, la radio-télévision ivoirienne.
Oui.
Celui-là même qui a accompagné un événement retransmis dans le monde entier, le couronnement de l'empereur de Centrafrique, Jean Bedel Bokassa, cérémonie avec pourpre et carrosse calqué sur Napoléon Ier. C'est un épisode dont beaucoup se gaussent, hein. Aujourd'hui, comment est-ce que vous vous êtes retrouvé dans cette aventure, j'allais dire, dans cette
Mais
galère.
Ceux qui se gaussent, ils étaient là-bas aussi. Hein.
Ah, peut-être aussi.
Il y avait beaucoup de gens qui se gaussent, parce qu'il n'a pas fait ça tout seul. Hein. Lui, les carrosses, les dorures, ça n'a pas été fabriqué à Bangui. Hein.
Certes.
Ça a voyagé à Bangui. Alors, comment je me suis retrouvé là? En fait, Bokassa, il avait... un père biologique, mais il avait deux autres pères. De Gaulle était son père, et puis Fouet-Boigny était son père. Et quand il a eu cette idée de devenir empereur, il avait besoin d'un orchestre pour accompagner tout ça. Donc il a demandé à son deuxième papa ou à son troisième papa, Oufouet, de l'orchestre, de la télévision, pour aller animer donc ce sacre. Et il se trouve que j'étais chef à cette époque-là et que je me suis retrouvé à Bangui dans tout ce show-là. C'était un super show quand même.
Vous avez donné quelques diamants
J'ai pas eu cette chance, mais j'ai vu des choses, j'ai vu surtout beaucoup de gens qui rigolaient, mais qui eux ont reçu des diamants.
Sona, Bino, Udimbea, Mandamongo, Ayaiwa.
VNDN sur RFI avec Manu Dibango qui fête ses 60 ans de carrière. On a entendu quelques notes de Douala Serenade, de Gone Clear, d'Abele Dance, de Besoka on Salsa, de Mboassou. Quelques-uns seulement, hein, pardonnez-nous, mais il a vraiment fallu choisir quelques-uns seulement de vos titres.
Super DJ quand même, merci et bravo hein, au mixeur là, parce que effectivement, le choix est difficile.
Ouais, vous l'avez métissé, votre musique, avec du reggae, avec du hip-hop, avec de la salsa, avec plein de genres musicaux extrêmement différents. Vous avez toujours été un artiste charnière, un marieur, disiez-vous tout à l'heure, Manu Dibango, entre l'Afrique, l'Amérique, l'Europe, toujours à l'affût des tendances musicales pour ensuite les rencontrer et ensuite les partager avec tous ceux qui vous écoutent. Est-ce qu'aujourd'hui, vous composez toujours ?
Bah oui.
Tous les jours ?
C'est pas encore, non, pas tous les jours, mais enfin, non, les idées viennent moins quand même. Il fut un temps où je faisais un disque tous les 15 jours, où j'arrangeais, bah, avec le temps, finalement, les idées deviennent sélectives, rares, mais bon, il y a quand même toujours cette envie de faire des choses. Quand je décide de faire par exemple ce safari symphonique, c'est de reprendre des choses mais différemment. Donc c'est une recomposition des choses, des morceaux que certains connaissent, et puis des hommages que je rends en même temps mais différemment. Donc il y a toujours du travail d'artisanat. Hein, parce que nous sommes, on est peut-être des artistes, mais on est sur beaucoup artisans. Hein.
Les musiques africaines d'aujourd'hui, Manu Dibango, je sais pas moi, l'afro rap, le coupé décalé, l'afro house, qu'est-ce que vous en pensez? Quelle oreille portez-vous sur elles?
Il faut toujours être ouvert. Mais le problème, c'est que, enfin, problème, non, mais on constate que le roi maintenant, c'est la boîte à rythme. Donc, on est prisonnier de quelque chose qui n'est pas le nôtre au départ. Il faut faire avec. On peut parfumer une boîte à rythme, on peut parfumer ça d'une couleur, je sais pas, aïroise, d'une couleur ivoirienne. C'est quand même toujours la boîte à rythme. Et ça, c'est un peu embêtant quelque part, parce qu'on s'enferme, on est prisonnier, quoi. Nous étions beaucoup plus libres. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des choses, ça veut dire que c'est une autre époque, c'est l'époque numérique, et que nous, on écoutait beaucoup la musique, maintenant on consomme la musique, ce n'est plus tout à fait pareil. Mais bon, comme d'habitude, il y a toujours des choses intéressantes qui sortent de tout ça.
Alors pour fêter vos 60 ans de carrière, on va faire un cadeau à trois de nos auditeurs, deux exemplaires de l'édition vinyle dédicacée de votre album Négropolitaine et un exemplaire de l'édition vinyle de One Africa qui ressort hein, à l'occasion de cet anniversaire, album mythique lui aussi sur lequel vous côtoyez, alors on va pas tous les citer parce qu'il y en a énormément, Youssou N'Dour, Salif Keita, Angélique Kidjo, Papa Wemba, Peter Gabriel, Relema, Geoffrey Oryema et vraiment j'en passe, donc un album vinyle One Africa est gagné. Deux albums Négropolitaine dédicacés, bien sûr, par Manu. Alors, je vous laisse poser vous-même la question à nos auditeurs. Manu, que faut-il dire? Que faut-il répondre à cette question pour gagner? On vous écoute.
Alors, comment s'appelle le cabaret qui se trouve à Bruxelles et dans lequel j'ai rencontré Patrice Lumumba et le Grand Calais?
Voilà, on attend donc le nom de ce cabaret. On en a parlé tout à l'heure dans l'émission. Répondez donc sur la page Facebook de l'émission par message privé. C'est très important, par message privé, pour gagner. Merci infiniment, Manu Dibango.
Ben merci. Je connaissais le générique, mais je savais pas qu'est-ce qui était derrière. Maintenant, c'est fait.
Eh bien voilà, vous êtes toujours le bienvenu. À bientôt. Merci.
À bientôt.
Infiniment et rendez-vous, bien sûr, pour votre grand concert, c'est au Grand Rex le 17 octobre. Et on va se quitter donc avec Wack Africa, hein, le titre qui a donné son nom à cet album légendaire que vous offrez à nos auditeurs. Dans un instant, le journal sur RFI. Bon week-end à tous. On se retrouve lundi, bien sûr, pour une émission musicale également. Un opéra contemporain créé actuellement à l'Opéra Comique à Paris. Et vous m'en direz.